13 ans après La France qui tombe, Nicolas Bavrez revient avec un ouvrage intitulé « Danser sur un volcan ». Le constat est sombre, sombre pour la France, avec un certain nombre d'opportunités effectivement à l'échelle mondiale, mais des opportunités que la France semble peu prête à saisir selon lui. Bonjour Nicolas Bavrez.
Bonjour.
Je vous lis « Notre pays semble ainsi rattrapé par la malédiction historique qui le voit régulièrement échouer lors des bouleversements géopolitiques ou des transformations du capitalisme ». On va voir avec vous tout d'abord pourquoi vous avez un constat aussi sombre sur la France. Je suis en compagnie de Marie Viennot pour dialoguer avec vous. Il semble y avoir une reprise, en tout cas ce que dit l'INSEE. La France est-elle prête selon vous à saisir cette reprise ?
Quand on regarde ce qui s'est passé depuis un quart de siècle dans la mondialisation, c'est vrai que l'avantage, c'était la montée des pays du Sud et les difficultés des pays du Nord. Aujourd'hui, le clivage passe entre ceux qui savent se réformer et ceux qui n'y arrivent pas. Quand on regarde, par exemple, dans les BRICS, Brésil, Russie, Afrique du Sud n'arrivent pas à se réformer et connaissent des vraies difficultés. Et on voit à l'inverse des pays qui ont réussi à se réformer, y compris en Europe, et qui vont bien en Europe du Nord. Mais par exemple, en Italie ou en Espagne, on a eu une amélioration spectaculaire de la croissance et de l'emploi. Chez nous, il y a un petit mieux pour deux raisons. D'abord, il faut voir que l'environnement international est extrêmement favorable. La baisse du pétrole, la baisse de l'euro, même si ça remonte un peu, et puis des taux d'intérêt qui sont nuls, voire négatifs. Et avec tout ceci, on produit finalement une croissance qui reste inférieure à la zone euro, ce qui est une nouveauté parce que généralement on était un petit peu au-dessus. Et on a arrêté de détruire de l'emploi, mais on en crée très peu. Quand on regarde ce qui s'est passé l'an dernier, 520 000 nouveaux emplois en Espagne, 210 000 en Italie, autour de 60.
On part de beaucoup plus loin, notamment en Espagne, on est passé de 25 à 20% de taux de chômeurs. On est quand même...
Évidemment, les situations sont différentes, mais la dynamique en économie est extrêmement forte. Et en tout cas, le fait que depuis les années 2000, la France soit en dessous, en moyenne, de la zone euro, ça, c'est une vraie nouveauté. Donc, je rappelle que c'est pour l'instant une note de l'INSEE, hein, c'est pas une réalité. Donc, ça fait 3 ans, par exemple, que l'INSEE annonce la reprise de l'investissement et 3 ans qu'on ne voit strictement rien venir et que l'investissement continue à baisser. Je crois simplement que l'autre aspect, c'est que le choc fiscal dans notre pays a été épouvantable. Donc, on a arrêté la course folle aux impôts. Donc, ça a fait du bien à tout le monde. Le consommateur a un peu plus de revenus grâce à la baisse du prix du pétrole. Mais le gros problème, c'est que cette consommation est surtout remplie et par les importations plus que par l'appareil de production nationale, même si le CICE a donné, là encore, a rendu un peu d'oxygène. Les marges des entreprises ont un peu augmenté et dès qu'elles augmentent, eh bien, on a un mieux sur l'emploi.
L'actualité en France, Nicolas Bavrez, c'est la réforme du travail, la fameuse loi travail, ses différentes moutures, la gauche est contre. Qu'en pense un libéral comme vous ?
Je crois que c'est le général de Gaulle qui disait que la France ne fait des réformes qu'à l'occasion des révolutions. Et ce projet, c'est la triste confirmation de l'incapacité dans notre pays à faire des réformes. Ça n'est pas que la France est ingouvernable, mais elle n'est pas gouvernée. On ne peut pas imaginer, ce projet de loi a été bon dans sa version originelle, aujourd'hui il a été vidé de tout son sens, mais on ne peut pas faire des réformes dans des conditions pareilles, c'est-à-dire sans légitimité politique, sans inscrire ce projet dans une vision ou un projet de redressement avec simplement un ensemble de mesures techniques, sans force économique et sociale pour soutenir et sans aucune pédagogie à l'usage des citoyens. Donc c'est la chronique d'un échec annoncé. Donc facialement, ce projet va se survivre, mais il est vidé de son sens. Et sur le plan politique, en revanche, il y a un vrai fait nouveau, c'est que c'est la première fois qu'on voit la gauche, avec ses organisations relais, manifester contre la gauche.
Marie Viennot.
Alors Nicolas Bavrez, vous qui reliez les sujets entre eux, vous ne pensez pas que ce qui bride l'embauche en CDI en France, c'est plus la situation économique internationale? Vous l'avez signalé, les institutions financières préfèrent placer leurs fonds à des taux négatifs, c'est-à-dire perdre de l'argent plutôt que de le laisser dans des banques, parce qu'elles craignent une prochaine crise. Pourquoi un patron de PME n'aurait pas peur lui aussi de l'avenir, quel que soit le code du travail et quelles que soient les facilités de licenciement?
quand on revient au chômage français, il y a trois sortes de chômage possibles, si je puis dire. Il y a un premier chômage qui est l'insuffisance de la demande des carnets de commandes. Et c'est vrai que, comme on l'a dit, notre pays maintenant est un pays à croissance très faible. Donc ce point existe. Ensuite, il y a les problèmes d'offres en matière de travail, c'est-à-dire un coût qui est trop élevé, une réglementation qui est tentaculaire et des licenciements qui sont devenus tellement difficiles que ça freine l'embauche. Et ça, c'est la deuxième cause qui existe et que devait traiter ce projet et qui malheureusement ne sera pas traité par ce projet. Et ensuite, on a un chômage dit technologique qu'on voit très fort dans notre pays, c'est-à-dire que quand on regarde le chômage français, c'est vrai que les diplômés, eux, sont relativement protégés. En revanche, les gens peu qualifiés souffrent d'un chômage extrêmement important. Et quand on voit que le système scolaire produit, si je puis dire, 180 000 jeunes chaque année qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter, on comprend que non seulement ce sera difficile pour eux de s'intégrer sur le marché du travail, mais de s'intégrer dans la société tout court. Donc, il faut, en France, traiter ces trois sortes de chômage, sachant que le troisième va par ailleurs accélérer avec l'arrivée de la révolution numérique, qui va beaucoup bouleverser la structure des emplois.
Et cette crainte de l'avenir, vous la comprenez, puisque vous la, ici, c'est le titre de votre livre quasiment, on est au bord du chaos. Donc comment un entrepreneur pourrait, lui, avoir confiance?
Aujourd'hui, un entrepreneur en France, il a très peu de raisons d'avoir confiance. Je vois que dans d'autres pays, les entrepreneurs ont confiance. Si on regarde les États-Unis, c'est un cas très intéressant. La paralysie ou les vices du système politique américain, c'est au moins aussi dégradé qu'en France ou en Europe. Mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Il y a une vitalité de l'économie et de la société qui font que les États-Unis sont repartis par le bas. Chez nous, l'économie et la société sont corsetées. Elles ne peuvent pas malheureusement compenser la paralysie du système politique.
Vous pensez que les entrepreneurs du CAC 40 n'ont pas confiance?
Quand on regarde leurs investissements, ça m'apparaît clair. Aujourd'hui, le CAC 40 va très bien. Pourquoi? Parce que plus de 80% des investissements, les créations d'emplois, le développement, tout ça se fait à l'étranger.
Le défenseur que vous êtes de la mondialisation ne peut pas leur reprocher d'investir à l'étranger ou de considérer qu'il est anormal que ces grosses entreprises, ces multinationales investissent à l'étranger.
Mais ça va très bien si j'ai aussi des entreprises étrangères, des jeunes, des entrepreneurs, des capitaux, des talents qui viennent en France. Or, aujourd'hui, la balance française, et notamment ce qui est le plus important, c'est la balance des talents, des cerveaux, des entrepreneurs. Et il y a quand même 80 000 personnes à haut potentiel qui partent chaque année de notre pays.
Nicolas Bavrez, le constat qui est sans cesse fait est que la France est trop rigide sur son marché du travail. Ce que l'on constate, et ce qui est rarement dit, c'est que finalement, les embauches, elles, sont également très rigides. Ces entrepreneurs n'embauchent que des individus qui sont issus des grandes écoles, avec des diplômes, de longues expériences, mettant de côté les plus jeunes et les plus vieux. Pourquoi ne pas se battre contre cette rigidité-là aussi? Pourquoi ne faire en sorte qu'il n'y ait, en quelque sorte, que les salariés qui doivent être souples?
Ah non, mais tout le monde doit être souple. De toute façon, comme on l'a dit, toutes les professions, tous les métiers, tous les secteurs sont télescopés par la révolution numérique. Et tout le monde va devoir bouger, y compris les médecins, les avocats, donc c'est pas seulement les salariés. Quels que soient les secteurs d'activité, aujourd'hui, il y a des remises en cause qui sont formidables. Sur les jeunes diplômés, aujourd'hui, trouvent du travail. L'énorme problème...
Oui, c'est bien ce que j'essaye de vous dire. Moi, c'est qu'il y a en fait un certain nombre de groupes, je ne vais pas les nommer, enfin je veux dire, je ne vais pas dire plus qu'un groupe, certains diraient des castes en France, et qui sont considérés comme étant à l'abri du mouvement, tandis que l'on demande à d'autres personnes qui sont probablement les plus en situation de précarisation d'absorber ce choc, effectivement,
alors,
de la mondialisation.
Il y a une segmentation du marché du travail, mais y compris chez les jeunes diplômés, il faut bien voir que le fait, par exemple, qu'on ait une French Tech qui est assez dynamique, la précarité, comment dire, quand on fait le choix de ce genre d'aventure entrepreneuriale, on fait le choix de la précarité. Je rappelle que quelqu'un qui crée une entreprise n'a pas droit au chômage en France. Donc le choix, y compris de la création d'entreprise, est pas un choix, est un choix en lui-même à risque et précaire.
Marie Viennot.
Ce qui est dommage, c'est que quand on regarde tous les atouts français, on voit que, y compris avec ce petit redémarrage, il suffirait d'arrêter de faire trop de bêtises. Et sur le plan économique, on peut faire repartir le pays très vite.
Trop de bêtises, c'est-à-dire ?
Ce qui est beaucoup plus compliqué. Ce qui est fait depuis 25 ans, si vous voulez. On ne lutte pas contre le chômage. En France, on lutte contre l'emploi depuis 25 ans. Donc, ce n'est pas très étonnant qu'on se retrouve aujourd'hui avec le même nombre d'emplois marchands qu'on avait en 2002. Et qu'on ait une production industrielle aujourd'hui qui soit celle de 1994.
Expliquez-nous ce que vous voulez dire par lutter contre l'emploi.
Si vous voulez, le projet de loi El Khomri est très instructif. Au départ, on avait des mesures qui libéralisaient et qui essayaient de traiter un des problèmes, on l'a dit, qui était le problème peur de l'embauche. On va se retrouver avec quoi à la fin ? On va se retrouver avec une taxe sur les CDD. Donc, dans un pays qui a 5,7 millions de chômeurs, on va aggraver le coût du travail. Et par ailleurs, le CPA et plusieurs autres contraintes qu'on va créer pour les entreprises. Donc, il est clair que maintenant, ce projet va continuer à détruire de l'emploi.
Vous êtes d'accord avec ça, Marie Viennot ?
Alors moi je fais pas de projection, je veux juste signaler que par exemple la taxe sur les emplois courts, sur les contrats courts, c'est une idée qui est soutenue par des économistes libéraux, dont Jean Tirole. Enfin, chaque fois qu'ils font des rapports en disant qu'il faut moins de protection pour les CDI, ils disent aussi il faut que un système un peu comme de pollueur-payeur, c'est-à-dire que les entreprises qui ont beaucoup recours aux CDD contribuent davantage au système de l'UNEDIC.
Alors Jean Tirole défend le principe du contrat unique, qui est sur le plan théorique une très belle idée. Il a en partie inspiré le Job Act de Matteo Renzi. Mais quand on regarde ce qu'a fait Matteo Renzi, moi c'est une approche que je pense très pragmatique et que je trouve bien préférable. Quand on a 5,7 millions de chômeurs, je pense qu'il faut prendre toutes les catégories de contrats de travail et essayer de les assouplir ou de les étendre tous. Parce que c'est comme ça qu'on permettra d'avoir le maximum de création d'emplois le plus vite possible. Et c'est vraiment... J'insiste, le travail, c'est pas seulement un revenu. C'est une place dans la société, c'est une perspective d'avenir. Tout vaut mieux que le chômage. Et c'est ce que nos hommes politiques n'ont toujours pas compris.
Tout vaut mieux que le chômage. Lorsqu'on regarde, par exemple, la situation aux États-Unis ou même en Allemagne, on se dit qu'il n'est pas évident, finalement, qu'on ait le choix entre le chômage et un travail, mais plutôt entre le chômage et parfois des travailleurs très peu payés, ces fameux working poor. Est-ce qu'il faudrait créer des working poor en France ?
Alors d'abord, des working poor en France, on en a. Le chômage n'empêche pas les working poor. Mais si vous regardez les États-Unis, donc le système fonctionne de manière très différente.
Beaucoup de gens ont arrêté de chercher du travail aussi.
Il y a eu des travailleurs découragés, mais aujourd'hui, le taux d'emploi remonte aux États-Unis. Les travailleurs découragés rentrent sur le marché du travail. Je rappelle que les États-Unis ont détruit 8,5 millions d'emplois, mais ils en ont recréé 14 millions derrière. Le plein emploi aux États-Unis est un vrai plein emploi aujourd'hui, puisqu'on voit que le taux d'occupation et le taux d'emploi remontent. Donc, il est faux de dire qu'il y a des travailleurs découragés, mais aujourd'hui, ils rentrent sur le marché du travail.
Moi, je voulais vous poser une question sur cette idée qui fait du chemin, là, le revenu de base ou revenu universel. Elle trouve un écho positif des libéraux, même à l'extrême gauche. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Là encore, c'est une excellente idée, mais on peut pas, si vous voulez, la France est un pays où on a déjà trois sortes de revenus minimum. Il y avait le RMI, le RSA, la PPE, tout ça s'est accumulé, on ne va pas en créer un quatrième. Donc, si ça doit permettre, et par ailleurs, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur le... Aujourd'hui, on a par ailleurs créé une espèce de revenu minimum pour les jeunes avec la nouvelle garantie qui, théoriquement, si le public potentiel, c'est 900 000 personnes, 4 milliards d'euros, donc ce sera sans doute à peu près la moitié, mais on n'a absolument plus les moyens de financer ce genre d'allocation, sauf si on restructure les autres, puisque je rappelle que notre pays est quand même à un niveau de dépenses publiques de 57,5% et il y a 34% de transferts sociaux déjà. C'est 15% des transferts sociaux mondiaux, la France. Donc, on ne peut pas en rajouter.
Si l'on vous suit, Nicolas Bavrez, cette loi travail, elle est vidée de son sens. Ça signifie que vous reportez vos espoirs sur un possible débat en 2017 lors de l'élection présidentielle ?
Je crois, compte tenu de la situation du pays, que 2017 sera une élection décisive. Donc, qu'on parle de production, qu'on parle de marché du travail, de dépenses publiques, mais aussi, surtout, les thèmes les plus difficiles, c'est-à-dire l'éducation, l'intégration des jeunes et des immigrés, il faut absolument que cette fois-ci, on débatte de nos problèmes et que ce soit pas une élection démagogique comme celle de 2012.
On vous retrouve à 8h15 pour continuer à évoquer cette fois-ci l'état de la France dans le monde, autrement dit les différentes questions qui se posent dans le monde contemporain. Et pour devenir riche, et pas seulement riche de savoir, il faut continuer à écouter France Culture, car Brice Couturier a des solutions pour vous.